Cette semaine, Céline Duchesnay rencontre Pierre Dubois. Ce soir, la traversée du miroir.
Un prénom minéral et un nom de famille végétal, c'est bien Pierre Dubois qui est toute cette semaine l'invité d'À Voix Nue. Bonsoir Pierre Dubois.
Bonsoir belle enfant.
Ce soir, dans ce quatrième épisode d'À Voix Nue, nous allons évoquer l'influence du fantastique sur votre œuvre et votre vie, votre goût pour les miroirs et pour la traversée des miroirs. Alors toute cette semaine, nous avons parlé ensemble de votre enfance, de l'esprit des lieux, de votre relation très forte à la nature et à la forêt, de votre goût aussi pour les légendes et les contes, et bien sûr de cette profession d'elficologue que vous exercez. Mais pour débuter cet entretien, j'aimerais qu'on évoque avec vous l'une de vos caractéristiques, à savoir votre capacité à vous évaporer, ce que Michel Hulin, qui est professeur spécialiste de la philosophie indienne, a nommé la mystique sauvage. C'est un livre qui est sorti en 1993. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut s'évaporer dans la nature, Pierre Dubois?
Eh bien, ce livre, justement, m'a rassuré, parce que lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais... un enfanson. j'étais dans cette arrière-cuisine, dans cette fameuse arrière-cuisine, et je regardais par la vitre mon jardin, et les bruits étaient autant d'échappatoires, étaient autant de chuchotements, étaient autant le bruit de la bouilloire, le bruit du feu, le tic-tac, ce bourdonnement, brusquement me donnait une espèce d'aile. Ou un bourdonnement qui allait m'élever comme des bruits. Victor Hugo dit les mots grecs et latins barbouillés comme des écoliers chuchotant dans les oiseaux dans une aire entre les noirs feuillets du lourd dictionnaire. Et il y a ça aussi, ces petits êtres-là, compressants qu'on entend, vont vous aider à traverser quelque chose, tout au moins à vous offrir des ailes, quelque chose pour partir. Et là, je traversais la vitre, quelque part. Et j'allais rejoindre les oiseaux, j'allais rejoindre la nature. Et si j'étais dans le jardin, c'est pareil. Ou si j'étais en train d'écrire, brusquement, et ça m'arrive encore fréquemment, mais dans cette enfance jusqu'à la préadolescence et après adolescence, j'avais des grands moments où j'étais plus là, où je partais, je dérivais. Et c'était extrêmement vertigineux et je me sentais arbre, je me sentais la pluie, la pluie me traversait. Si je mettais la main sur un rocher, je devenais minéral. Il y avait de ces moments extraordinaires. Et lorsque je m'éveillais un petit peu de ces espèces de transe, une heure avait pu s'écouler. Et c'était vraiment merveilleux. Je pouvais parler à un oiseau, je pouvais m'envoler avec l'oiseau, je pouvais, c'était vraiment quelque chose de fabuleux.
Avec des sensations, enfin une avec vraie des sensation physique.
Avec des sensations, oui, puisque l'eau pouvait me traverser, je pouvais m'envoler, c'était vraiment merveilleux. Mais c'était aussi quelque part effrayant, parce que j'osais pas parler de ces espèces de bonheur, mais ça m'arrive encore fugitivement, par exemple, dans un train. Je vais regarder, je vais voir un paysage, je vais me mettre à pleurer, parce que c'est un paysage, je rentre quelques minutes dedans, et je voudrais y rester, je voudrais y demeurer, et c'est un crève-cœur de l'oublier, de le perdre. Même maintenant, quand je prends des trajets, je sais qu'à un moment donné, à un coude d'une colline, je vais voir tel paysage, et pendant tout ce temps, je vais avoir cette espèce je quitte ma place et je vais dans ce paysage. Et une fois, bon, par contre, il disparaît et je suis comme ça suspendu dans l'air. Et je n'osais pas en parler. Et beaucoup, beaucoup plus tard, j'ai lu ce bouquin de Hulin, La mystique sauvage. Et je me suis dit mais c'est formidable, en fait j'étais pas fou, ça arrive à d'autres et c'était formidable. Je pense que justement il devrait y avoir des cours pour enfants, pour les enfants, pour les préparer à ça, quelque part. Parler de ces choses-là, pour leur dire, non, mais votre sensibilité, tout ça, vous pouvez en profiter, vous pouvez la vivre, vous pouvez vous épancher, vous pouvez justement retrouver des ailes et vous envoler, et puis connaître d'autres sensations. Et ce bouquin de Hula m'a fait un bien formidable. C'est comme Bachelard, d'ailleurs, il y a des choses... Et aujourd'hui encore, par exemple, quand je veux écrire, pour me mettre justement en état d'écriture, je vais là par contre artificiellement un peu essayer de retrouver cet état d'esprit par des musiques répétitives ou par une espèce de cercle, de cercle magique de livres, de bouquins, d'objets qui vont me permettre de passer... Cette frontière.
Et justement, ce principe de la faille entre les mondes, c'est quelque chose que vous avez beaucoup exploré. Je pense notamment à deux bandes dessinées dont vous avez écrit le scénario. Alors, il y a Petrus Barbigère avec Johann Sfar au dessin. Petrus Barbigère étant un peu votre double quelque part, surtout quand on le voit avec cette grande tenue noire, cette barbe, on dirait un Pierre Dubois en bande dessinée. Alors Petrus Barbigère, lui, est cette personne qui a suffisamment de science pour pouvoir passer d'un côté comme de l'autre, traverser comme ça les mondes. Il y a aussi la légende du changeling avec Xavier Fourquemin au dessin, où là vous avez un jeune garçon, Peter, enfin il y a cet échange d'enfants qui est caractéristique du monde des fées, et il y a un moment donné où, dans l'année, les mondes peuvent correspondre et on peut passer, traverser. Donc c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans vos ouvrages.
Oui, et même disons que lorsqu'on fait des recherches, du collectage, on retrouve très souvent les histoires de sabbat, les histoires de fêtes de mai et de périodes dans l'année. Par exemple, au mois de mai, à la Noël, il y avait des moments clés où les frontières s'abolissent. Justement on peut passer sans le faire exprès dans l'autre monde. Les portes sont ouvertes à la Noël, les portes sont ouvertes à la Toussaint, les portes sont ouvertes au printemps, au mois de mai, au solstice, en général à tous les solstices, les portes s'entrouvrent. Et donc là, les anciens racontaient beaucoup de ces histoires où ils se promenaient et brusquement ils ont découvert des lieux où ils ont retrouvé des défunts, de leurs défunts chers, mélangés avec des fées, avec des elfes. Alors en Irlande, c'est en haut des collines où il y a les lépréconnes et ils passent une nuit à boire. Mais attention, au premier chant du coq, il faut qu'ils se sauvent. Mais il y avait donc des moments dans l'année où les portes s'ouvraient et on fêtait justement on ouvrait les portes aussi aux défunts, par exemple à la Noël. On partait, on laissait une bûche allumée, on laissait le feu allumé pour que les défunts viennent et que les fées aussi, que les lutins, les petits esprits de la nature et de la maison d'ailleurs, se retrouvent accueillis. Eux partaient à la messe de minuit ou à droite à gauche, mais ils laissaient justement les braises bien chaudes et même des bols de bouillie, des gâteaux, des mets et à boire aussi pour ces êtres. C'était des moments où justement où tout devenait universel. On ne faisait plus qu'un. Il y avait un tout, même l'un côté comme de l'autre.
Alors ça me fait penser, Pierre Dubois, à cette enfance passée, parce que vous avez passé votre enfance à côté d'une frontière, la frontière belge, et ce va-et-vient entre deux pays, surtout j'imagine dans les années 50, quand même très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Est-ce que cette frontière belge a pu vous inspirer ?
Ah oui, et énormément. Non seulement la frontière, mais le fait d'être à la fois belge et français. Donc j'étais apatride pendant jusqu'à 21 ans, je crois à peu près, et cette situation me plaisait beaucoup. J'avais pas de nationalité, j'étais libre quoi quelque part. J'étais libre, j'étais entre les deux. Et cette frontière, c'était magique pour moi. Donc on habitait en France et j'en habitais à une dizaine de kilomètres de la frontière, et la frontière, et c'était quelque chose, parce qu'il y avait d'un côté les douaniers français en bleu, Et mais de l'autre côté, il y avait les douaniers belges et avec quelques gendarmes qui avaient des uniformes incroyables. Et à l'époque, les gendarmes belges avaient une espèce de haute forme, un képi, mais très haut, et tout en noir, avec du noir, du rouge et du jaune. Et ils avaient des grandes matraques. Ouais. Et puis, il y avait le danger. Parce que passer la frontière, il y avait un sentiment de danger. Il ne fallait pas amener certaines denrées en Belgique. Et de l'autre côté, quand on repassait de l'autre côté, donc il y avait un danger. Il y avait vraiment un tribut à payer quelque part. Il y avait, et ça, c'était vraiment une vraie frontière, quoi. Et lorsqu'on arrivait, il y avait cette rue de Mons, rue de Valenciennes qui se transformait en rue de Mons, et il y avait de chaque côté des vitrines avec des grandes affiches. Guinness is good for you. Il y avait tout un côté anglais parce que c'était, ils avaient aussi une reine, un roi, donc il y avait quelque chose de british derrière. Il y avait du whisky qu'on connaissait beaucoup moins en France, et surtout il y avait des cigares, des boîtes à cigares. Et mes oncles fumaient le cigare avec des bagues en papier doré dessus, avec des boîtes, on ouvrait avec des têtes d'indiens, de conquistadors, et c'était quelque chose de merveilleux. Et il y avait aussi l'image, il y avait les images parce qu'il y avait beaucoup de bandes dessinées et des parfums, des odeurs que je n'ai plus retrouvées, et aujourd'hui on les retrouve plus. Lorsqu'on arrivait et il y avait une grande charcuterie ardennaise, et c'était au cochon gras, c'était vraiment le cochon gras, et il y avait donc c'est la charcuterie fumée à l'ardennaise, quoi, avec des sangliers, etc. Et maintenant, c'est terminé, évidemment.
Est-ce que vous pensez, Pierre Dubois, que la Belgique vous a donné le goût du fantastique, et notamment de la littérature fantastique ?
Ah oui. Dès que j'arrivais en Belgique, déjà, il y avait aussi des archers. Des vrais archers qui tiraient comme ça à l'arc sur des coqs emplumés, quoi. Enfin, des faux coqs, évidemment, en haut de perche. Et c'était, il y avait les arbalétriers, il y avait les gilles de Binche avec leurs grandes plumes qui dansaient solaires, comme ça, qui lançaient il y avait des carnavals, ils lançaient des oranges à certaines fêtes de l'année. Il y avait un accent assez amusant. Mes parents, dès que j'arrivais, c'est « Oh, le petit frisé !» Moi, c'est le petit Poulout. Ça va, le petit Poulout, le petit frisé, le petit crôlé. C'était le petit crôlé. Et on allait voir les lâchers de pigeons, si c'était des lâchers de pigeons. Non, il y avait quelque chose de festif. Puis il y avait la bière, il y avait un tas de... Et il y avait donc les images, la bande dessinée. Et de notre côté, on avait un petit peu de bande dessinée, mais pas tellement, tandis que là, il y avait le moustique, c'est là où j'ai vu les vrais Tintins, les vrais Spirou, il y en avait partout, et c'était magique. Et puis, il y avait donc ces processions, ces carnavals qui m'enchantaient totalement, dont la fête du doudou. Le doudou, c'est le lumeçon, parce qu'il y a énormément d'histoires de dragons en Belgique, mais ces dragons ne sont pas méchants. Bon, bien sûr, mais ils représentent toutes les forces terriennes, stoniennes, quoi, et aussi toutes les saisons. Donc, au printemps, on sortait le doudou. Et donc, c'était un dragon, qu'on appelait aussi le lumeçon, qui avait été combattu par un chevalier qui s'appelait Gilles de Chin. Mais aussi, c'était Gilles de Chin et en même temps Saint-Georges. Et le dragon apparaissait au son de la musique des carillons, et vous remarquerez que souvent en Belgique, en haut des clochers et des beffrois, il y a toujours un dragon qui est le protecteur de la ville. Et donc, il y avait un combat. Il y avait les chinchins, qui étaient des hommes chiens, les hommes verts, vêtus de feuillage, et qui allaient combattre les uns contre Saint-Georges et les autres contre le dragon. Et pendant tout ce combat, et alors il avait une queue gigantesque, et il fallait donc réussir à sauter sur cette queue et arracher les crins de et j'en avais eu un de crin de dragon comme ça, donc c'était quelque chose de merveilleux. J'étais moi-même quelque part touché par la force du dragon dans mon enfance, et tout le temps on entendait les carillons qui jouaient ting ta tan tan ta tan ta 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 tan ta tan ta tan tan ta tan tan ta tan ta 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 ta, et sans arrêt tout le long d'une heure du combat, et c'était lancinant. Et comme toutes ces musiques répétitives, c'est comme les tam-tams, c'est comme les tambours, c'est un passage vers l'autre côté.
Et alors justement, un passage qui pouvait s'accompagner aussi de lecture, la littérature fantastique qui vous a accompagné une partie de votre enfance et puis après toute votre vie. Du côté belge, on a l'écrivain Jean Rey qui vous a beaucoup accompagné. Quels sont les grands auteurs en littérature fantastique qui ont été vos compagnons de route ?
Alors là, effectivement, la littérature belge est toujours fantastique, pratiquement. Ils appellent ça le réalisme magique, mais en même temps, ça va au-delà du réalisme magique pour certains. Les plus intellos vont faire du réalisme magique, et les autres vont faire du fantastique pur. Mais c'est parce que je crois que la Belgique est foncièrement fantastique. Il y a avec ses cagoulards, les beubeux, tout ça. Et Jean Rey, lui, il était flamand, a vécu à Gand. Mais quand on rentre dans Gand et dans Bruges, on rentre dans un décor, déjà un décor flamboyant. On rentre chez Franz Hals, on rentre chez Bruegel, on rentre chez... Et donc, on a l'impression que c'est gorgé de fantômes, un peu comme en Angleterre. Nous, quand on parle de fantômes d'une maison hantée, tout de suite, on voit un sourire sceptique. Tandis que là, non, on peut parler de fantômes, de maisons hantées. D'ailleurs, on voit bien qu'elles sont hantées. Et Jean Rey, enfant, lorsqu'il se promenait dans les rues et près des canaux de cette eau verdâtre, entre les abbayes, ce décor gothique, devait rêver de Malpertuis, de ces maisons où il se passait derrière des choses extraordinaires. Et donc, il y avait ce décor, et lorsque je lisais Jean Rey, je le vivais intensément, et j'étais heureux d'avoir une part belge à l'intérieur pour pouvoir justement les approcher davantage. Donc j'ai lu Jean Rey, John Flanders, c'est Harry Dixon, mais aussi ses meilleurs romans, ses nouvelles. J'ai été sur ses traces. J'ai rencontré des gens qui l'avaient non seulement édité, comme les moines d'Averbaud, le père de Kaiser aussi, tous ces personnes, Johan Den, qui est un écrivain, qui a écrit L'homme au crâne rasé, que Paul Delvaux a mis en film, et il y a toutes les éditions Marabout qui avaient réédité Michel de Gelderone, et ils ont une écriture fantastique aussi. C'est ça, c'est que c'est pas une écriture à la Stephen King, on a l'impression qu'on va faire peur, là c'est le train fantôme, c'est tout de suite un scénario de film d'épouvante, etc. Là non, c'est insidieux, c'est très beau, c'est raconté, c'est gourmand, on a l'impression de d'ailleurs quand on lit Jean Rey, il y a sans arrêt des scènes de mangeaille, une de ses nouvelles s'appelle La choucroute, au jambon de Mayence, il y a toujours une gourmandise derrière des parfums, des odeurs. Et lorsqu'on allait manger à Saint-Bavon des Palingengrun, c'est-à-dire de l'anguille au vert, et en buvant une gueuse ou une trapiste, c'est tout le monde de Jean Rey qui est arrivé, et puis ses autres, ses compagnons quelque part, comme Henri Verne, comme Thomas Owen, comme Gérard Prévost aussi, que j'ai bien connu, tous ces êtres, et qui m'ont beaucoup apporté. Et c'est Franz Hellens, et je pourrais en citer sans arrêt. On a l'impression que toute la littérature, puis Jean-Baptiste Baronian, la littérature belge, de toute façon, est fantastique.
Et on peut peut-être préciser aussi pour les auditeurs que quand on parle de littérature fantastique, on ne parle pas de littérature de fantasy ou d'héroïque fantasy. On est vraiment sur ce réalisme dans lequel on est, et puis tout à coup il y a une intrusion, c'est cette fameuse traversée du miroir dont vous parlez, qui fait que le magique peut arriver à un moment donné, mais tout n'est pas magique.
C'est là où la magie agit. C'est-à-dire, par exemple, une fois, je vais faire un reportage sur une fête dans le pays des sorcières, d'ailleurs des Macrales, des Churchill. C'était à Furnes. Et à Furnes, il y avait un carnaval. Et ce carnaval était en même temps, se mélangeait avec un pèlerinage. Et tout ça se passait sur une foire. Avec des carrousels, avec des manèges, et on entendait de la musique du flonflon et des flonflons, et d'un côté aussi les cris et les coups de trompette du carnaval, et les pénitents qui passaient tout en noir, avec des croix sur eux, comme un petit peu en Espagne, quoi, avec des pleureuses, et ils récitaient la Bible ou je ne sais trop quoi en flamand, et avec l'encensoir, et ils passaient comme ça dans cette fête. Et partout où ils passaient, on arrêtait la musique, et les manèges arrêtaient leur flonflon. Mais une fois que c'était reparti, ça repartait. Et quand, en voyant ces espèces de cagoulards, de fantômes noirs, au milieu de cette fête bariolée à la Bruegel, et passait derrière un tramway allumé, un tramway qui passait, et je dis au micro, c'est incroyable, la Belgique n'a pas inventé le surréalisme et le réalisme magique, il est vivant, je l'ai devant les yeux, Delvaux n'a rien inventé, et là, il y a un monsieur avec un béret qui m'entend, qui se tourne avec un grand sourire vers moi, et qui me dit, je suis Paul Delvaux. C'est une réponse, elle est une question, une réponse, une question, une réponse. Et c'est la Belgique. Il y a une espèce de Tillenspiegel dans chaque Belge et de fantôme. Par exemple, le Godin, Noël Godin, cet entarteur magnifique, qui est la continuation de Tillenspiegel.
Alors on va devoir quand même changer un peu de territoire, parce que ce n'est pas en Belgique que vous avez créé votre monde fantastique, c'est en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, puisqu'en 1988, il y a la création du Centre de l'imaginaire arthurien en Brocéliande, dans le château de Compère, qui est censé être le château de Merlin tout de même. Alors qu'est-ce que vous avez voulu faire en participant à cette grande aventure ?
Retrouver cet esprit, justement, cet esprit l'esprit de Merlin, rendre à la forêt de Brocéliande ce qu'elle avait déjà, et aussi, non, c'était au départ pour la protéger. C'est-à-dire que toute une partie de la vallée de l'Aff allait être noyée. Et il y avait Claudine et Hervé Glot qui avaient une maison d'édition, Artus, et où étaient rassemblés des auteurs, des poètes, des créateurs, mais aussi des folkloristes, mais aussi des ethnologues, mais aussi de savantes personnes qui s'intéressaient au mythe arthurien. Et on a décidé de sauver la vallée de l'Aff. Et on est tous venus de partout, la France et ailleurs, la Belgique, en costume moyenâgeux pour avoir plus de poids, avec des chevaux, avec des armures. Et on a été suivis, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, et un monsieur, quoi, qui était propriétaire du château de Compère, en Brocéliande, nous a dit, voilà, je vous ai vu, j'ai entendu ce que vous faites, je vous bien vous prêter mon château, je vous offre le château, si vous en faites quelque chose. Et ce château est planté, quelque part, au bord du fameux lac de l'étang, enfin de où Viviane et Merlin se sont rencontrés pour la première fois, et c'est là où a été élevé le fameux Lancelot du lac. Donc on a décidé de faire un centre de l'imaginaire arthurien, mais ouvert à tous les imaginaires. Donc on avait fait un film avec sur John Borman, le réalisateur d'Excalibur, qui lui, enthousiaste par cette idée, nous a dit, ben moi je vous prête toutes les armures et les costumes du film. Donc on a récupéré le Graal, on a récupéré Excalibur, on a récupéré le manteau de Merlin, le sceptre de Merlin, le casque de Merlin et toutes les armures. Et on a pu faire une grande exposition tout de suite. Et disons que il y avait Michel Lebris, qui lui était un auteur, mais il y avait aussi Grinville, il y avait toutes des peintres, des dessinateurs, des sculpteurs qui nous ont aidés. Et c'était la base, c'était les premiers chevaliers de la table ronde. Et là, ça nous a permis aussi de rencontrer des archers, des amoureux des contes, donc des conteurs, d'ouvrir presque ce château à l'année. On ouvre à Pâques jusqu'à Halloween. Et durant tout l'été, tout le printemps, il y a des spectacles, des conteurs, et où on raconte chaque année une des histoires, un des thèmes du mythe arthurien. Alors c'est les femmes, les belles dames sans merci, Viviane, les chevaliers à table ronde, ou c'est le Graal, la quête du Graal, ou c'est Pendragon. Mais chaque année, ça change. Et on invite des dessinateurs, mais c'est ça qui est formidable, c'est que on a des dessinateurs en herbe qui commencent, et puis des chevronnés. Donc il y a une ouverture, même des auteurs ou des conteurs, des musiciens, des harpistes qui viennent et qui se mélangent, qui se mêlent à ces grands noms. On a eu Caro qui est venu cette année, on a eu Brian Froud, Alan Lee, des grands noms, Sfar évidemment. Donc on peut les rencontrer facilement, mais aussi c'est presque une école. On parle des librairies raphaélites, mais là je crois que dans cette forêt de Brocéliande, on a retrouvé l'esprit de chevalerie, cet esprit de merveilleux, d'enchantement, et c'est un moyen d'accueillir de nouveaux dessinateurs et de les aider. On a eu quelques-uns qui sont venus qui n'étaient pas encore publiés et on les a aidés à être publiés et aussi à retrouver ce qu'ils cherchent. Lorsqu'on franchit justement les portes de ce château de Compiègne de Brocéliande, on retrouve une forme d'enfance, une forme on dit toujours que ceux qui en sortent disent « on a retrouvé ce qu'on était venu chercher ». Alors on peut dire, bon, c'est des vieux enfants, mais c'est très bien des vieux enfants.
Est-ce que vous avez pu reprendre l'escrime à
cheval ? Voilà, c'est ça aussi, c'est que j'ai toujours aimé l'escrime. Et d'ailleurs, quand je travaillais à France 3, Michel Lebris, qui était mon directeur, me laissait écrire des films, des petits films d'aventure pour jouer aux corsaires, aux pirates, et m'encourager et me payer et dire que je te paye quand même pour jouer Long John Silver, le capitaine Ahab, etc. et te raconter de belles histoires. Eh ben oui.
Eh bien, on va se laisser sur l'image des pirates. Je vous souhaite une bonne soirée, Pierre Dubois, et je vous dis à demain.
À demain. Un bel enfant.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Duchesnay avec Pierre Dubois. À voix nue, réalisation Laurent Polleret, prise de son Yves Lehors, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.